Bonjour, c'est Axel Le Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir Bruno Tertrais. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous connaissez bien évidemment dans C'est dans l'air. Vous venez très souvent nous parler de la défense. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, je le rappelle. Et vous êtes également l'auteur de Pax Atomica, théorie pratique et limite de la dissuasion aux éditions Odile Jacob, livre publié en janvier 2024. Je vous ai invité aujourd'hui pour faire suite aux propos du président de la République sur le nucléaire. Il s'est dit prêt la semaine dernière, Emmanuel Macron, à ouvrir le débat d'une défense européenne qui comprendrait aussi l'arme nucléaire que la France, je le rappelle, est la seule à posséder dans l'Union européenne depuis le Brexit. Est-ce que vous avez été surpris qu'il ouvre cette porte-là ?
Pas du tout, d'autant plus qu'il l'a déjà ouverte à de multiples reprises. On l'a presque un petit peu oublié parce que c'était au moment du début du Covid, mais il avait fait un grand discours à l'école de guerre en février 2020, dans lequel il allait bien plus loin que ses prédécesseurs, qui eux avaient déjà parlé de cette affaire. La dissuasion nucléaire, c'est pas seulement pour la France, c'est aussi pour l'Europe.
Mais
c'est
pas une lubie d'Emmanuel Macron.
Pas du tout. Depuis même le général de Gaulle, qui, alors discrètement, mais disait déjà, l'Allemagne doit se, la France doit se sentir menacée dès que l'Allemagne est menacée. On a oublié aussi que Georges Pompidou, devant l'Assemblée nationale, disait que la force de dissuasion française protégerait aussi, dans les faits, l'Europe. Simplement, Emmanuel Macron est allé plus loin que ses prédécesseurs en disant les intérêts vitaux, ceux qui sont couverts par le parapluie nucléaire, si vous voulez, ils sont désormais européens. Donc il y a vraiment une continuité, non seulement dans la vision de Macron, mais une continuité dans la vision
française. Mais regardez, il a pris un mur, Emmanuel Macron. Si on écoute les oppositions avec les réactions de Marine Le Pen, qui dit « nous l'avions annoncé, il a nié, il mentait, Emmanuel Macron souhaite bien partager avec l'Union européenne notre dissuasion nucléaire ». Réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui a dénoncé un abandon de la doctrine de dissuasion nucléaire française qui fragilise, dit-il, la position militaire de la France. Et enfin, François-Xavier Bellamy, tête de liste aux européennes, qui dit, écoutez-le, un président ne devrait pas dire ça.
Un chef de l'État français ne devrait pas dire ça. L'ambiguïté stratégique, ça ne consiste pas à parler à tort et à travers de ce que constitue, de ce qui constitue aujourd'hui la clé absolue de la sécurité nationale, c'est-à-dire effectivement cette dissuasion qui est fondée par définition d'abord sur le silence. On doit, quand on est chef d'État, on doit d'abord apprendre à se taire sur ce qui constitue encore une fois le cœur de notre modèle de sécurité.
Je n'aurais pas la cruauté de rappeler à M. Bellamy ce que disaient Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, issus de la même famille politique, sur la dissuasion. Ils en parlaient beaucoup et ils en parlaient aussi sur le même thème qu'Emmanuel Macron, à savoir sur la dimension européenne de notre dissuasion. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je pense que les propos d'Emmanuel Macron n'auraient peut-être pas été aussi repris si on n'était pas en pleine campagne des européennes précisément.
Mais là, est-ce que quand même c'est un abandon, pardonnez-moi, je vous coupe Bruno Tertrais, est-ce que c'est un abandon de souveraineté? Alors, lorsque l'on dit on va protéger l'ensemble de l'Union européenne avec la dissuasion nucléaire française.
Justement, Caroline Roux, c'est toute la différence entre protéger et partager. Il n'y a pas de partage nucléaire. Ça serait faire un mauvais procès d'intention aux autorités françaises, Emmanuel Macron et ses prédécesseurs, que de dire qu'on envisage de partager la dissuasion. Il n'a jamais été question, jamais, de partager la décision d'emploi sur les forces nucléaires françaises, jamais. Il n'a pas été question non plus chez les gens sérieux, y compris chez le président actuel et ses prédécesseurs, de partager le budget nucléaire entre la France et l'Allemagne, comme le disent certains.
Alors donc, ça consiste en quoi ?
Ça consiste d'abord à parler, justement, contrairement à ce qui vient d'être dit, à dire, parce que la dissuasion, c'est d'abord un discours. Moi, je dis souvent que la dissuasion, c'est un petit peu comme ce que disait Oscar Wilde à propos de la beauté, c'est dans les yeux de l'autre que ça se joue. Donc on ne dissuade pas par décret, si vous voulez. Bon, c'est pas nous qui décidons qu'on dissuade, c'est l'adversaire qui décide s'il est dissuadé. En revanche, ce sont les Européens qui décident eux-mêmes s'ils se sentent rassurés, protégés par des déclarations françaises qui consistent à dire bah, désormais, on prend en compte le sort de la Pologne, de l'Allemagne
alors,
et des autres
quand on réfléchit à la menace. Alors, vous posez la question, est-ce que c'est une demande ? Est-ce que les Allemands, qui jusqu'à présent se sentaient très protégés avec les têtes nucléaires américaines et l'OTAN, ont envie d'être protégés par l'arme nucléaire française ?
Là encore, on en parle depuis longtemps. Vous seriez peut-être surprise à lire les comptes rendus des conversations officielles, secrètes, mais désormais dans les archives, entre le chancelier Kohl et François Mitterrand, par exemple. Donc ce n'est pas un sujet nouveau. Aujourd'hui, les Allemands, et ça a beaucoup changé en quelques années, surtout depuis quelques mois, ils ont une demande de débat sur ce sujet, alors que Quand Macron en avait parlé en 2020, ils n'étaient pas très chauds parce qu'ils avaient peur que si on commence à en parler avec les Français, ça affaiblit la dissuasion américaine et Washington ne sera pas content. Aujourd'hui, je peux en témoigner personnellement, les Allemands sont beaucoup plus à l'aise pour envisager le scénario Trump. Car s'il y a bien une chose, une ombre qui pèse sur ce débat de sécurité européenne, dans le domaine nucléaire comme pour les autres, c'est l'ombre de Trump. Et donc, avec les Allemands et avec les Polonais, on commence à en parler très sérieusement, discrètement, mais sérieusement.
C'est un vrai mouvement stratégique par rapport à la façon dont la France considérait la dissuasion nucléaire. En préparant cette émission, j'ai lu que dans leur doctrine nucléaire, les Américains évoquent leurs partenaires pour justifier l'éventuelle utilisation de l'arme nucléaire. À ce stade, nous, non.
On n'est pas un partenaire, mais on est un allié. Il faut quand même rappeler que depuis 1974, ça date pas d'hier, si vous me permettez l'expression, en 1974, depuis 1974 même, puisqu'on le répète chaque année, les dissuasions de la France et de la Grande-Bretagne sont considérées officiellement par tous les alliés de l'OTAN, de manière très explicite, comme contribuant à ce qu'on appelle la sécurité globale de l'Alliance. Il y a trois puissances nucléaires dans l'OTAN, États-Unis, France et Grande-Bretagne. Et on estime, alors là, encore à tort ou à raison, mais que ça induit une sorte d'incertitude potentielle dans l'esprit de l'adversaire, en l'espèce la Russie, qui doit compter sur trois centres de décision indépendants et très indépendants en ce qui concerne la France, dont on considère souvent qu'elle est plus indépendante que la Grande-Bretagne dans ce domaine.
Bruno Tertrais, vous considérez donc, je résume, qu'il y a une forme de continuité dans les propos d'Emmanuel Macron, mais qu'il est allé plus loin qu'aucun président avant lui ne l'avait fait sur la dissuasion et sur, non pas le partage, comme vous l'avez expliqué à l'instant.
Il est allé plus loin dans le discours, mais sans franchir jamais aucune ligne rouge qui tienne justement à notre souveraineté, qu'elle soit politique, technique ou opérationnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être...
On ne va pas leur donner les codes nucléaires, c'est ça que vous voulez dire?
Certainement pas. Et les Américains, d'ailleurs, quand ils font emporter à des avions allemands ou italiens des bombes nucléaires, ils ne donnent pas les codes non plus.
D'accord.
Bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le discours d'Emmanuel Macron et dans son entretien à la presse régionale, il y avait aussi des aspects qu'on a un petit peu moins relevés.
Alors, qu'ils sont aussi intéressants.
L'idée de faut-il davantage de protection antimissile? Faut-il une capacité de riposte européenne sur le territoire russe un jour s'il y avait une menace russe et que les Américains n'étaient pas là? Ce chantier est ouvert parce que, j'allais dire, on voit presque tous les jours, malheureusement, que la guerre des missiles, les frappes avec des drones et des missiles de croisière, des missiles balistiques, eh bien, ça touche tous les jours au moins deux pays, l'Ukraine, bien sûr, Israël également. Et ça, l'opinion française le sait, et c'est aussi dans la tête d'Emmanuel Macron.
Ce bouclier antimissile, c'est ce qui s'est fait, le dôme de fer en Israël? C'est sur ce modèle-là, à votre avis, que le président le conçoit? C'était voulu par les Allemands, ça, pour le coup?
Alors, attendez, il y a deux choses différentes. Les Allemands ont un projet industriel de coopération dans ce domaine-là. Ils n'ont pas dit, on va faire un super bouclier qui va protéger toute l'Europe.
D'accord.
Ils veulent mettre en avant un certain nombre de systèmes, parce que eux, ils ont toujours préféré l'antimissile défensif à la dissuasion, c'est nucléaire, et donc les Allemands n'aiment pas trop. Mais on ne peut pas faire en Europe ce qu'Israël fait avec son propre territoire. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus grand, et très franchement, ce serait mentir aux Français que de leur suggérer que demain, même dans 5 ans ou 10 ans, on peut protéger toute l'Europe avec un bouclier étanche. Mais c'est aussi pour ça qu'on a la dissuasion.
Bruno Tertrais, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, a affirmé hier que la situation sur le front s'était détériorée, évidemment, plutôt au profit de la Russie. Les troupes russes ayant remporté, dit-il, des succès tactiques dans plusieurs zones. La Russie est-elle en train de gagner la guerre?
Non, mais elle est en train d'avancer un peu plus vite. Comme le disait l'excellent expert Michel Goya, qui est un collègue, il le résume très bien. Il dit, en gros, la Russie progressait de 2 km carrés par jour il y a quelques semaines. En ce moment, elle progresse de 4 km carrés par jour. C'est le double. C'est pas énorme, mais c'est vrai qu'on sent que les Ukrainiens ont du mal à résister. Tout l'enjeu est de savoir si, dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, disons avant l'été, les Russes, c'est-à-dire avant que la plupart des armements américains qui ont été votés il y a quelques semaines, il y a quelques jours, arrivent, tout l'enjeu est que l'Ukraine puisse stopper une éventuelle percée, une véritable percée russe. On n'est pas du tout dans un renversement de tendance. Il n'y a aucune percée décisive.
Mais on comprend cette urgence à ce que l'aide américaine et l'aide européenne qui ont été promises et annoncées soient acheminées rapidement sur le terrain.
C'est désormais urgent pour les Ukrainiens qui manquent d'hommes, on le sait, vous avez débattu de la mobilisation, qui manquent de matériel, de munitions et qui commencent à fatiguer, non pas affaiblir, mais à fatiguer.
Merci beaucoup Bruno Tertrais d'avoir accepté de venir nous en dire plus sur la dissuasion nucléaire et sur les propos d'Emmanuel Macron. Je rappelle votre livre, Pax Atomica, théorie pratique et limites de la dissuasion aux éditions Odile Jacob. Merci, merci encore. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. Nous allons revenir sur la garde à vue de Gérard Depardieu. A tout de suite.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner, C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.